Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Et bon réveil à tous peut-être, si vous réveillez un petit peu tard ou vous restez dans le lit ce dimanche, bon, en prévision d'une grande soirée qui nous attend aujourd'hui au M Paris Saint-Germain à 20h45, journée spéciale évidemment sur RMC, les grandes gueules du sport ce dimanche avec Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault et Fred Weiss. Bonjour les amis.
Hello.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Salut.
Ça va, vous allez bien?
Ouais.
Mon petit dimanche, vous avez fait votre footing et tout déjà?
15 bornes.
C'est un peu tôt là.
15 bornes.
Ouais.
C'est un peu tôt.
15 bornes, ouais.
Ouais. Bah, il faut ça, hein. C'est un dimanche matin, il faut.
Ouais. Mais en vélo ou.
À pied.
À pied.
Ouais. Je suis parti vendredi.
T'es parti.
Mais dis-moi, t'es supporter de Marseille. T'es Marseillais, toi, hein? Oui, bah voilà.
Je suis pas Marseillais, je suis supporter de Marseille.
T'es supporter de Marseille, mais je.
Ouais,
mais
t'as de la nuance, quoi.
Oui, t'as la nuance.
Par l'esprit, je l'ai.
Oui. Oh, je sens que vous êtes en forme ce matin, et c'est parfait parce que jusqu'à midi, au programme de vos grandes gueules du sport. À 10h, déjà sur le ring des GG, on va parler d'athlétisme. Vous savez que c'est le dernier jour des mondiaux à Tokyo. Est-ce que les mondiaux de l'équipe de France sont réussis? Pour l'instant, on a la médaille d'or de Jimmy Gressier, d'ailleurs, midi 40. On suivra sur RMC le 5000 en intégralité, avec notamment Ladji Doucouré qui va venir nous voir ensuite. Pour en parler tout à l'heure. Les GG remontent le temps aujourd'hui. Il y a 25 ans, jour pour jour, figurez-vous que Marie-Josée Pérec fuyait les Jeux Olympiques de Sydney. Hein, c'est quelque chose qui nous a tous marqués. On va en reparler. Puis cette question, la France est-elle parfois trop dure avec ses champions? La punchline pour nos bleus du rugby, déçus. Elles ont accroché les invincibles anglaises hier, mais ont finalement été battues en demi de la Coupe du Monde de rugby féminine. Faut-il avoir des regrets dans votre vestiaire? On va se poser cette question. Est-ce que le haut niveau et les projets de famille sont compatibles? C'est une interview de Lewis Hamilton cette semaine qui nous pousse à cette réflexion. Et puis sur le buzzer, ah je l'aime bien ce buzzer. Demain on connaîtra le ballon d'or. Selon vous, si Dembélé gagne, il sera plus grand que Mbappé?
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Mbappé, non? Je suis presque déçu un petit peu.
Alors
Kiki
moi en tout cas c'est la première fois. C'est la première fois depuis que.
Ouais, c'est pour ça que je me sens pas bien.
Il y a une vraie demande, sachez-le, sur les réseaux sociaux, sur au 32-16. Vous ne parlez plus assez de Mbappé depuis Jean-Christophe Drouet par
J'ai un Christophe Cessieux qui parlerait de vouloir parler d'Mbappé à chaque fois.
D'ailleurs, il va mieux d'ailleurs. Hein,
et d'ailleurs, il faut le dire, c'est la dernière émission des grandes gueules du sport sans Christophe Cessieux. Parce qu'il
donc profite de parler du PSG, de Mbappé, parce qu'après tu.
Apparemment,
tu vas te faire désinguer.
On lui manque. Hein. J'ai eu le téléphone.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, on lui manque.
Bon, alors moi, j'ai envoyé un texto. Je ne dois pas lui manquer énormément parce qu'il m'a jamais répondu.
Il t'a laissé un vu.
Oui, j'espère que ça va. Il m'a lâché un vu. Ouais. Bon, tranquillement.
On l'embrasse à Christophe.
Moi, quand je l'ai appelé, il a décroché, il a dit enfin un ami qui m'appelle. Il y a Weiss qui me harcèle. J'en ai marre.
C'est exactement ça. En plus, j'ai envoyé plein de textos. Je dis ça va, je m'inquiète.
Il t'a appelé samedi quand t'étais à ton 7e kilomètre.
Exactement.
C'est ça.
Non, vendredi, je t'ai dit.
Oui, mais t'as commencé vendredi, samedi, tu peux avoir avancé quand même, tu vois. Et puis en fin d'émission, évidemment, vous venez jouer au jeu du sport avec vos GG. Hein, je vous rappelle, deux auditeurs peuvent venir jouer avec nos GG. Pour cela, envoyez sport au 732-16 pour participer. On a des cadeaux à vous faire gagner. On vous fait gagner un Ghetto Blaster de la marque Muse. Vous savez, vous pouvez mettre des cassettes, des CD, écouter la radio, tout ça en Bluetooth en plus. Incroyable. Design rétro. Franchement, je l'ai vu, ça envoie. 32-16 pour parler avec vos GG, notre WhatsApp 06-12-424-424 et notre compte X, évidemment, pour participer au débat. Mais d'abord, le grand choc de la Ligue 1 vous attend sur RMC ce soir.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Avec le tête de Rémy. Encore un but d'Inter pour Loïc Rémy, qui permet à l'Olympique de Marseille de mener sur sa première occasion 1-0 dans ce classico. C'est terminé. Et la victoire 3-0 de l'Olympique de Marseille. Aïe 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 aïe. Le coup de Clean dans le Vélodrome. Et ça fait 3-0. Et doublé pour Kylian Mbappé. Et le but. Et l'ouverture du score. Et João Neves qui permet au Paris Saint-Germain de mener 1-0. Terminé ici au Vélodrome, qui va certainement gronder, qui va siffler également après cette défaite de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain sur le score de 3-0.
Bon, ils ont toute la bonne volonté du monde, les Marseillais, Kevin, mais ils n'y arrivent pas plus qu'en première période.
C'est terminé, la fessée du PSG sur l'Olympique de Marseille, 4-0.
Soirée Électrique, attendu ce soir sur RMC, OM PSG en direct du Vélodrome avec Jean-Louis Tour et Florent Germain aux commentaires. Si les orages ne perturbent pas la rencontre. Apparemment, ça devrait aller. Peut-être sur la deuxième mi-temps, on pourrait avoir quelques éclairs, mais ça devrait tenir. Les Marseillais n'ont pas gagné en championnat face au PSG au Vélodrome depuis 2011, je vous le rappelle. Et si c'était pour cette année ? Alors peut-être. Oui, le PSG est champion d'Europe, a impacté en battant l'Atalanta 4-0 pour se retrouver avec la Ligue des Champions cette semaine. Mais Paris est privé de Dembélé, Doué, João Neves sur blessure. Barcola est incertain, ça commence à faire du monde. Les Parisiens sur un fil physiquement après une saison à rallonge pendant qu'un OM New Look a tenu tête mais perdu sur le fil face au Real cette semaine. Les GG, je vous pose cette question. Oui ou non, dans ce contexte, l'OM est dans l'obligation de faire un résultat. Marion Bartoli.
Non.
Sarah Pitkowski.
Plutôt non.
Jérôme Pinault.
Écoute, j'ai changé d'avis ce matin. Je vais dire oui.
Oh là là, ça.
C'est parce que t'as trop couru, tu t'es oxygéné le cerveau.
Il est complètement perdu, c'est ouais.
Non, c'est ça. J'ai passé la soirée hier, on m'a saoulé avec cette histoire de oui.
Et on t'a retourné le cerveau.
Il y a un moment donné, il va falloir qu'on gagne. Ouais. Et ça a commencé hier après-midi, autour de mon 12e kilomètre, par un jeune. Petit argentin, hein, vous connaissez Georges Quirino. Ah, mais tu sais, il faudrait un petit. Faut de l'ambition. Ok, c'est d'accord.
Que je dise,
donc, ouais. Oui.
C'est pas moi qui ai dit que j'ai été convaincant, hein, ce sont les autres. Fred Weiss, oui ou non ?
Oui.
Ah, voilà. Ah, tu vois, je savais.
De oui, de non. Jean-Louis Tour nous rejoint.
Salut. Bonjour Jean-Louis. Tout le monde.
Oui ou non, Jean-Louis ? Oui ou non, Jean-Louis ? Est-ce que l'OM est dans l'obligation de faire un résultat ?
Non, plutôt non.
Supporters marseillais et parisiens, d'ailleurs, on vous attend au 32-16. Envoyez vos messages sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. Oui, bon, plutôt non, nous dit Jean-Louis. Il se réveille, hein, ce soir, il est aux commentaires, il garde toute l'énergie pour ce soir
21-45. Il économise sa voix, surtout, apparemment.
Déjà, qu'on lui a dit hier, il y a un orage, fais gaffe, peut-être tu prendras pas le train. Bon, Jean-Louis, les Marseillais y croient, franchement, avant cette rencontre ? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Moi, ce que je trouve notable, c'est la différence de discours avec la saison dernière. C'est-à-dire que Geronimo Rulli, quand il est arrivé à Marseille, il parlait de jouer le titre, de concurrencer le PSG. Là, il était en conférence de presse il y a deux jours et il a quand même dit, c'est le meilleur PSG de l'histoire. Nous, on a progressé par rapport à l'année dernière, mais l'idée, c'est vraiment de réduire l'écart avec eux. Donc, on n'est plus exactement sur le même discours. Et j'ai l'impression que ça s'inscrit sur une dédramatisation globale de l'événement côté marseillais. De Zerbi a bien insisté en disant que son équipe avait encore besoin de temps parce qu'il y avait eu beaucoup de changements et qu'il faut assimiler les principes de jeu. Donc lui aussi, il met un peu le pied sur le ballon. Et j'avais déjà ressenti ça avant Madrid en Ligue des Champions. Florent Germain nous en parlait aussi. En gros, on essaye de moins mettre de pression sur les épaules des joueurs marseillais en disant le plus important, c'est de revenir en Ligue des Champions. Il n'y a pas besoin d'en rajouter au niveau de la motivation et de la pression. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose autour de ce match contre le PSG. Le contraire de l'année dernière où il y avait une espèce de frénésie autour de ce match où les Marseillais étaient persuadés de pouvoir accrocher les Parisiens et à l'arrivée mentalement, même s'ils ont été réduits à 10 pendant une demi-heure, ils ont fait complètement un non-match.
Mais oui, on se rappelle le carton rouge sur Amin Harit qui avait effectivement changé un petit peu les données du match. Jérôme Pinault, tiens, alors là, c'est toi qui as changé d'avis pendant la nuit, parce que du coup, on vient d'apprendre que tu avais fait une soirée et que tu n'étais pas du tout en train de courir. Parce qu'on a fait, du fact-checking du coup en direct. C'est toi-même qui t'es fact-checké quand même.
J'ai échangé.
Ouais, mais il est allé à cette soirée en courant. Mais t'es allé en courant,
c'est pas très vite. Donc, tu vois, c'est
non, mais Jérôme, pourquoi tu penses que l'OM est dans l'obligation de faire un résultat donc,
alors, déjà, un résultat, ça veut dire quoi? Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que l'OM, avec sa prestation de cette semaine, se doit de faire un résultat pour pas mettre le feu et se doit de me faire un résultat pour finalement valider la prestation de cette semaine. Se dire qu'on n'est pas loin, on avance et on va vers du mieux et on va pouvoir être un dauphin. Pourquoi ? Parce que si tu prends une tôle ce soir, ce qu'on a dit la semaine dernière, tu finis par te dire, en fait, le vide n'est pas comblé, tu pédales et t'es toujours très loin derrière le Paris Saint-Germain, même si je pense que...
Mais surtout dans ces conditions, quand il manque des joueurs aussi importants.
Cet argument ne tient pas avec parce que quand tu l'as vu cette semaine, le Paris Saint-Germain jouer sans Dembélé, sans Doué, à la limite, João Neves, mais...
Neves est arrivé après Barcola aussi et pas là, c'est compliqué, il est très incertain. Honnêtement, moi c'est par rapport au peuple marseillais, c'est un peuple fier. À un moment, tu peux pas te dire que ils vont venir te rouler dessus alors que il manque des joueurs hyper importants.
Mais c'est rien à voir.
Le match à Madrid a rendu fier le peuple marseillais.
Mais justement,
c'est pas un résultat, tu perds.
Oui, mais parce qu'ils ont montré des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est ça, dépend où tu mets le curseur du résultat. Je suis d'accord. Mais tu peux, t'as pas le droit déjà de te faire rouler dessus par définition. Parce que ça veut dire que ta Ligue 1, elle vaut quoi? Que ton numéro 2, quand il joue contre une équipe complètement amoindrie du PSG, tu prends quand même une rousse à la maison. Ça serait catastrophique. Ensuite, si tu fais pas de résultat, justement, ça valide pas. C'est ce que t'as fait à Madrid. Et moi, ça m'attristerait de me dire qu'à Marseille, on se contenterait juste de ça. Et quand j'entends Jean-Louis qui dit non, mais en fait, ils sont en train de dire que évidemment, ils sont en train de leur enlever la pression. Mais ça veut pas dire que médiatiquement tu affiches quelque chose et que dans le vestiaire tu demandes pas autre chose. Bien évidemment, sûr, qu'ils veulent un résultat.
Et tu as trouvé une clé pour aller embêter Madrid, puisque cette semaine il te dit qu'il a mis 90 mètres entre l'attaquant et le défenseur et que ça a gêné, Mbappé. Tu te dis que quand même, il a peut-être trouvé 2-3 arguments que les garçons ont mis en place et ça a marché.
Mais bien sûr qu'il travaille
en plus des amis, très sérieux par rapport à ça. Mais le peuple va trouver assez légitime de perdre à Madrid. Et c'est pour ça que j'ai changé aussi d'avis, c'est que il trouvera pas légitime, quelle que soit la défaite.
T'es à la maison. Et en plus, perdre à Madrid quand t'as pas gagné à l'extérieur en Ligue 1, ben finalement, est-ce que ça choque quelqu'un? Par contre, t'as pas perdu pour l'instant à la maison. Tu joues contre le PSG, il est amoindri, le peuple aura du mal à supporter ça.
J'espère que les joueurs de l'OM vous écoutent ce matin parce que vous êtes très convaincants. Évidemment, là, c'est presque à, tu sais, dans le vestiaire avant.
C'est un peuple fier, les Marseillais. Moi, je suis les Mojou, on est quasiment des cousins.
J'imagine.
Ça se voit pas toujours.
Il a pris la carte. On prévient Roberto De Zerbi, les grandes gueules du sport. On peut l'écouter en podcast. Donc, s'ils veulent repasser ça juste avant le début de la rencontre, tout à l'heure au Vélodrome, pour encourager les joueurs, ça peut servir. Mario Bartoli, t'as pas changé d'avis, toi. Pour le coup, tu penses que Marseille n'est pas dans l'obligation d'un résultat?
Non, mais encore une fois, définition du résultat. Pour moi, si déjà l'OM arrive à arracher un match nul, ça serait quasiment un excellent résultat, parce que au vu de la prestation du PSG, alors moi je veux bien qu'on me raconte qu'effectivement le PSG a moindri, mais il faut quand même voir les remplaçants. On n'est pas sur des U12 en train de pas savoir taper un ballon. Les remplaçants sont quand même des
joueurs. Ça veut dire que les Marseillais, c'est des U12 qui savent pas taper un ballon.
Entre 80 et 100 millions, ils ont eu un effectif avec une profondeur de banc qui est absolument énorme. Et s'ils ont ridiculisé l'Atalanta en les faisant passer pour des U16, c'est qu'il y a quand même bien une raison. Aujourd'hui, le PSG est la meilleure équipe européenne, sans discussion quasiment. Alors même si effectivement l'Olympique de Marseille est arrivé à faire un très bon match contre le Real Madrid, on peut argumenter sur le fait que peut-être un match nul était plus juste au vu de l'arbitrage, mais ça reste un autre débat. Mais pour moi, aujourd'hui, non, l'OM n'est pas dans l'obligation d'aller arracher un résultat. Ça serait dans la logique de ce qu'ils ont fait par rapport à Madrid. Mais si le PSG reste au-dessus de l'Olympique de Marseille et que ça fait 1-0 pour le PSG ou 2-1 pour le PSG et que malheureusement, il y a une défaite à la fin, pour moi, ça ne sera pas du tout honteux pour l'Olympique de Marseille. En revanche, si effectivement, tu commences à en prendre 3, 4, 5, là oui, que ça soit honteux, je suis d'accord. Mais dans l'obligation de résultat, il faut la définition du résultat.
Quand on match nul ou une victoire.
Un match nul, c'est un résultat.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit plus. Moi, c'est pour ça que je me suis posé sur
définition du résultat. Ouais. Exactement.
On vient t'en donner
définition
une,
du
Marion.
Résultat. Mais pour l'instant, il faut quand même pas se raconter d'histoire. Même si on a vu Dembélé effectivement et Doué n'ont pas joué, ils en ont quand même planté 4 en Champions League. Ça reste une équipe qui tourne. C'est un collectif. Le PSG, ce n'est pas des individualités.
Mais tous étaient choqués par ce match de jeu.
Non, mais c'est un système de jeu qui est rodé. Le travail qu'a fait Luis Enrique a été absolument monumental. Et aujourd'hui, au vu des qualités techniques des joueurs qui remplacent ceux qui sont titulaires, ça reste un collectif qui est absolument monstrueux. C'est indéniable. Alors pour moi, si dans ce système-là, effectivement, l'Olympique de Marseille, par son cœur, par sa volonté, par le Vélodrome qui pousse, par tout ce que représente ce club-là, arrive à arracher un nul, je suis désolée, pour moi, ça serait déjà un très grand résultat. Et non, ça serait pas honteux si l'Olympique de Marseille s'incline d'un but d'écart ou d'éventuellement de but d'écart. Je vous rappelle quand même que l'OM
pour le coup, c'est pas le débat. On dit pas que ce serait honteux si Marseille perd contre cette équipe de Paris.
L'OM n'a plus marqué un but au Vélodrome en Ligue 1 face au PSG depuis 2017. Depuis 2017, il faut se rendre compte des stats qui sont
pas
passés
dans le
auparavant.
Passé. Et après,
tout l'équipe va
contextualiser ce qu'est Atalanta quand même. Atalanta, en championnat, c'est une victoire et deux nuls. C'est pas non plus la meilleure équipe du monde.
Mais l'Atalanta, c'est Brest.
C'est
un match de Champions League.
C'est des U14.
La référence pour Paris, mais attention, parce que là, nous, on parle de cela, mais je pense que Luis Enrique prend pas comme référence un match de Champions League en semaine contre l'Atalanta. Il sait où il va.
Évidemment que non.
La vraie valeur de Paris, c'est pas 4-0, 5-0 contre l'Atalanta. C'est champion d'Europe et avec un schéma de jeu qui sait qu'il peut mettre partout, quels que soient les joueurs. C'est ça la force de ce club-là.
Exactement.
Après, ce dimanche, il y a un match très particulier. Et est-ce qu'il va savoir faire avec cette équipe-là Moi, je pense qu'ils ont déroulé cette semaine. Et depuis le début de la saison, ils déroulent finalement leur football.
Mais là, ils ont pas eu de vrai adversaire, voilà. En fait.
Et là, il va falloir aller chercher quelque chose
en
plus.
Enfin, je suis désolé, mais de dire que l'OM est un vrai adversaire, c'est un contexte qui fait que c'est un vrai adversaire. Mais en termes de jeu, en termes de jeu, les années passées et aujourd'hui, l'OM qui est capable de faire quand même les montagnes russes, qui a pas fait un début de saison idéal, aujourd'hui. Quand on dit l'OM est-il dans l'obligation de faire un résultat, pour moi, l'OM est peut-être dans l'obligation de fournir un match plein du début jusqu'à la fin. Il me semble qu'il faut plus se concentrer sur le fond, c'est-à-dire que le jeu que va être capable de faire l'OM face au PSG, et que le résultat, peut-être qu'il faut le mettre dans un deuxième temps.
Ouais, alors, tout ça, tu vas gagner contre le PSG? Tu gagneras plus jamais, alors. Parce que quand ils sont amoindris comme ça.
La semaine dernière, je vous ai écouté, vous disiez. Je vous ai écouté la semaine dernière, et vous m'avez expliqué qu'il y avait deux championnats. Il y avait le PSG et les autres. Donc, ça n'a pas changé entre dimanche dernier et ce dimanche.
Oui, mais quand ils sont amoindris, Sarah, je suis d'accord avec toi, mais tu te rends compte que c'est pas.
Mais t'as vu les remplaçants qu'ils ont,
est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de rouler, ils vont rouler sur Marseille malgré leurs absences, malgré le contexte? Alors vous allez m'expliquer Atalanta.
On n'a pas dit rouler.
Je vous ai expliqué que franchement Atalanta c'est pas fou. Et je suis d'accord avec Jérôme qui dit que c'est Brest. Bien évidemment rien contre Brest, mais Atalanta c'est pas non plus fou. Pour l'instant ils n'ont pas eu de vrai adversaire. Et je suis désolé. Marseille se positionne depuis le début avec un recrutement, avec un mercato, avec des annonces.
Il a failli faire un résultat à Madrid.
Ils ont failli faire un résultat à Madrid à un moment.
Est-ce que l'OM est fantastique depuis le début de saison?
Bah non, justement.
Bah donc.
Justement, c'est l'occasion de montrer que contre.
Mais ça, c'est pas en un claquement de doigts, en fait.
Ben, alors, si, normalement, si tu peux. Justement, ça peut être cette victoire ou en tous les cas ce match nul qui te construit une capacité d'aller plus loin.
Jean-Louis.
Non mais Fred, t'as quand même un match contre Rennes où t'es à 10 contre 11 sur quasiment la totalité du match et tu te débrouilles de perdre. Et tu vas m'expliquer que parce que tu perds Doué, Dembélé, que tu le remplaces par Gvara, par Barcola, par Zaïre Emery, que c'est une équipe vraiment très 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 amoindrie du PSG.
C'est une équipe amoindrie. Marion, tu peux me dire ce que tu veux.
C'est une équipe amoindrie, mais t'as quand même des joueurs d'une qualité qui est extraordinaire.
Mais c'est la meilleure.
T'as quand même des joueurs de qualité.
Pour moi, c'est ta seule solution. Si tu veux gagner un moment ou en tout cas faire un match nul contre le PSG, c'est maintenant ou c'est jamais. Parce que quand l'équipe sera au complet, ils vont te mettre une rouste. C'est assez clair.
Jean-Louis, tu écoutes tout ça avec intérêt. Tu te régales. Non mais
bien sûr.
Non mais c'est vrai. Enfin pour le coup, moi j'insiste sur le fait que le Marseille a failli aller chercher un résultat à Madrid. Il faut pas en tenir compte.
Après attention,
il faut le contenu, bien sûr.
Première mi-temps, ils concèdent quand même 11 tirs cadrés, je suis pas sûr que ce soit une grosse base
c'est
de travail
ce match,
quand même
on
pour
le rejoue plusieurs fois, peut-être que le score n'est pas le même effectivement.
Mais effectivement le score en tout cas est un motif d'espoir, c'est vrai, mais en face sur le PSG, moi j'insisterai autant sur les absents que sur les présents. Et je veux dire quand, et c'était eux qui ont fait le match contre l'Atalanta, Hakimi, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Kvaratskhelia, tous ces joueurs-là, ils seront là ce soir et ils sont largement au-dessus du niveau moyen de la Ligue 1 et au-dessus de l'OM. Donc, alors c'est vrai qu'il y a des absences, ça c'est sûr. Et le PSG amoindrit, on peut pas dire le contraire. Mais je pense quand même qu'il y a encore une petite marge et le PSG partira favori.
Il y a une grosse marge, si tu me permets, mais...
Je te le permets.
Quand le Real marchait sur l'Europe, ils avaient aussi des accros. J'ai souvenir du Grand Real être accroché à domicile contre l'Espagnol Barcelone dans un derby.
C'est possible, bien sûr.
Dans un match face à un club qu'ils doivent battre. Quand le Barça venait à Bernabéu, même si le Real marchait sur l'Europe, c'était accroché. C'est ça qu'on demande finalement à cette équipe de l'OM.
La seule différence quand même, c'est que les Marseille-PSG, le PSG se relâche assez peu.
On n'a pas vibré.
Non, le PSG se relâche assez peu et ils mettent l'intensité maximale sur ces rencontres-là à chaque fois. C'est ce qui fait qu'il y a cette série qui dure depuis longtemps.
Jérôme Pinault regardait des Real Madrid, Espagnol, Barcelone il y a quelques années.
Évidemment.
Et encore hier soir peut-être.
J'ai regardé hier soir.
Victoire du Real.
Bah heureusement que le Kiki de Bondy est là. Hein. Parce que le Real n'est pas plus
si
le Real.
Vous n'avez pas la référence.
Le premier but, c'est Militao quand même qui le met.
Ouais. Ok, vous voulez qu'on fasse. On fait le match du Real ?
Allez, vas-y.
Allez. On peut faire tous les championnats, tout ça.
Ah ouais ? Attention. On a quelques instants, continue de parler de OM Paris Saint-Germain. L'OM est-il dans l'obligation de faire un résultat? Il y a beaucoup de supporters marseillais qui nous appellent au 32-16. Il y a Stéphanie, Mickaël qui nous attend. On revient dans quelques instants sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Mario Bartoli, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, Fred Weiss et Jean-Louis Tour qui est avec nous, la voix du foot avant OM PSG 20h45 à suivre sur RMC ce soir. On se pose cette question avec les absents au PSG, les joueurs incertains. L'OM est-il dans l'obligation de faire un résultat? Tiens, vous êtes nombreux à nous avoir laissé des messages sur notre WhatsApp au 06 12 424 424. On a notamment Kamel qui nous dit moi je veux un match nul avec les mêmes prestations que mardi pour l'Olympique de Marseille. Une défaite et au moins un match nul, nous dit Eric également. Donc voilà, on a quand même des supporters olympiens qui ont envie d'y croire. Tiens, il y a Flo qui nous appelle depuis, qui nous envoie un message depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bon dimanche, je kiffe, 3-0 pour l'OM. J'adore Marion.
Il va avoir la...
J'adore Marion.
Il va avoir les championnats du monde. Aujourd'hui,
c'est,
non,
c'est au Congo. C'est pas au...
C'est au Rwanda. C'est au Rwanda.
C'est au Rwanda, oui. Pardon, j'avais entendu Rwanda. Pardon,
ça. L'égalisme n'est pas à Kinshasa. Ça, voilà.
Ouais.
On révisera ensemble la géographie, si vous voulez, la géographie.
Non, mais c'est surtout que j'ai pas écouté.
Il a bégayé sur le mot, il s'est fait un peu
peut-être pas vanner à 9h30 sur la prononciation, faut faire attention.
Après, tu vois Limoges à côté de Marseille à partir de là.
Oui, c'est ça.
Non, non,
j'ai dit qu'on était ça, tu vois, c'est ça ton problème. C'est le problème d'audition. Mais il y a des solutions pour ça, Marion. Et j'ai dit qu'on était des cousins, tout simplement.
C'est vrai.
Éloignés.
Stéphanie, supportrice de l'OM, nous appelle au 32-16. Salut Stéphanie.
Bonjour.
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 Marseille est obligée de faire un résultat, Stéphanie, pour toi?
Obligée, oui, mais pas pour les raisons que l'on invoque. Pas parce que Paris a des absents, mais parce que le début de saison est compliqué quand même. Il va peut-être falloir penser à mettre un peu des points. Alors oui, Paris, ils ont un banc malgré tout qui est colossal. Donc voilà, on a le droit d'y croire parce que on est toujours sur la prestation de mardi. Puis encore, si on oublie les 20 premières minutes où on a pris l'eau, quoi. Mais voilà pourquoi moi je me dis qu'il faut faire un résultat pour avoir des points, pas uniquement parce que Paris est en deçà. Surtout que Paris va venir comme d'habitude avec comme tous les clubs qui viennent au Vélodrome avec envie de gagner, de mettre une déculottée à Marseille parce que c'est dans l'ADN, dans le sens du comment dire de la rivalité entre les deux clubs. Mais moi je pense qu'il faut avoir à l'esprit que il faut gagner pour avoir des points. Et pas uniquement parce que c'est Paris et parce qu'ils ont des absents. Enfin, je le ressens comme ça, en tout cas.
Il faut l'ambition pour le classement, effectivement. Merci Stéphanie de nous avoir rappelé au 32-16.
Les deux ne sont pas incompatibles.
Mais c'est vrai que l'élément Vélodrome aussi est peut-être important. Luis Enrique et les joueurs du PSG vont venir avec de l'ambition. Écoutez le coach parisien en parler.
Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est joli de jouer à l'extérieur et c'est joli de voir comme nous pouvons, avec notre qualité, calmer les stades. Ça a été beaucoup de fois. Normalement, quand nous jouons en Europe, nous ressentons beaucoup, beaucoup plus notre supporter, les 3000, 4000 qui sont là, parce qu'ils sont tout le temps. Ce sera joli et je pense qu'il faut profiter de jouer ce type de match.
Voilà, ils veulent calmer le Vélodrome. C'est vrai, il faut pas douter peut-être de la volonté du PSG de vouloir impacter en allant
après,
sur la terre de Marseille.
Après, quand t'es le PSG, des sources de motivation, faut les trouver. Hein. Ils sont tellement au-dessus depuis quelques années. Trouver les sources de motivation et le discours là de Luis Enrique, c'est aussi pour essayer de trouver une motivation autre que juste la victoire.
Si tu es supporter parisien. Supporter marseillais, tu préférerais presque ce soir Dembélé soit sur la pelouse et que Marquinhos soit absent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours dans cet effectif un ou deux mecs qui te mènent le truc. Et Marquinhos dans le vestiaire, t'inquiète pas, qu'il va savoir.
Il va savoir trouver les sources de motivation.
Ouais. Surtout si Hakimi pouvait être absent, là, c'est, effectivement, ça va
rendre. Il sera là.
Vous voulez
combien? Vous voulez 10 absents, là,
je sais pas comment il fait pour être encore sur le terrain avec le nombre de matchs qu'il
Hakimi
a joué.
Mais non, c'est
on avait
c'est pas, il a fatigue physique et mentale. Je sais pas comment il n'a pas d'emprise sur lui.
Il mérite un ballon d'or.
C'est assez extraordinaire la saison qui vient.
Évidemment, dans la discussion, hein,
Jean-Louis, ça reste un événement pour les Parisiens, le choc face à Marseille, tu sens?
Ouais, j'ai l'impression, parce que sur le terrain, ils n'ont pas laissé grand-chose. Donc, si c'était pas un événement, ils le joueraient avec un peu plus de relâchement, comme ils ont fait certains matchs en Ligue 1. Hein. L'année dernière, ils ont quand même perdu, ils ont été accrochés parfois. Par contre, ça tombe jamais contre Marseille. Parce qu'ils se mettent quand même en mode choc, en mode rivalité, ils ont conscience de tout ça. Hein.
Depuis 10 ans, 23 confrontations, toutes compétitions confondues, 2 victoires seulement pour l'Olympique de Marseille. Donc ça prouve que les Parisiens prennent ça au sérieux. Tiens, on a Guillaume, supporter parisien, qui nous appelle au 32-16. Salut Guillaume.
Salut la team.
Salut.
Bon, c'est un événement toujours pour toi d'ailleurs, tiens, au MPSG.
Pardon ?
C'est un événement toujours, le classique pour toi ?
Mais toujours, moi ça fait 35 ans que je supporte le PSG, ça fait 35 ans que c'est un événement. Moi j'ai simplement voulu appeler ce matin pour réagir aux propos, j'étais surpris qu'il y ait ce débat de savoir est-ce que Paris va marcher sur Marseille ce soir ou pas. Pour moi la réponse est oui. Aujourd'hui on a marché sur l'Europe la saison dernière, on voit que le début de saison, malgré les quelques blessures qu'on a ou des petits problèmes de lancement, tout va bien. Et je suis surpris aussi que côté marseillais, on se gargarise d'avoir perdu que 2-1 à Madrid. Or que si on avait mis Paris sur le terrain à Bernabéu mardi soir, ça aurait été 4-0 pour Paris.
Ah ouais, mais c'est pas comparable.
Pour moi, Madrid a été hyper faible. Marseille aurait pu, oui, en effet, faire quelque chose, mais ils l'ont pas fait. Et je pense que ce soir, une fois de plus, il va pas y avoir de match. Il y a une vraie différence de niveau entre les deux équipes. Le match arrive tôt dans la saison. Si Marseille avait joué Paris, peut-être un peu plus tard, en étant un peu plus rodé, en ayant déjà un peu plus de matchs dans les jambes, peut-être que le match aurait été un peu plus disputé. Je suis d'accord là-dessus, mais ce soir il y aura pas match.
Moi, je pense l'inverse. Hein. Je pense exactement l'inverse. Je pense qu'il vaut mieux prendre Paris et les gros cylindrés en début de compétition, avant qu'ils se chauffent, etc., plutôt que les prendre à la fin quand ils sont bien chauds, quand ils sont une confiance à 200%.
Mais
on est chaud
tout le temps.
Moi, j'aime ta façon de penser. Vraiment, j'adore. Mais à un moment, il faut.
Le Marseille qui se gargarise. Guillaume, avant QSI, quand Paris Saint-Germain allait à Madrid, ils étaient contents de faire 2-1. Et dans la semaine qui suivait, si tu rencontrais Marseille, tu étais aussi content de te dire peut-être qu'on peut accrocher Marseille. Avant QSI, avant que le Paris Saint-Germain vienne aux mains du Qatar. Avant cela, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est à peu près logique que le peuple marseillais se dise. On est allé faire un résultat à Madrid. On peut donc légitimement imaginer qu'on puisse accrocher le Paris Saint-Germain. Excuse-nous, mais c'est à peu près logique.
Surtout à la maison.
Il y a 2 ans, quand on est allé jouer à Marseille, on avait fait.
D'accord. Donc ce soir, on n'allume pas la télé. Vous allez nous rouler dessus et terminer quoi. C'est ça l'histoire.
Comme depuis.
Jean-Michel Boulard, on est sur un truc qui est parti. Mais non, mais on est classe le monde.
J'ai une fille qui a 13 ans.
Okay.
J'ai une fille qui a 13 ans. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une défaite de Paris.
D'accord.
Eh bien, peut-être qu'elle apprendra ce soir.
Regarde la télé ce soir. Alors,
c'est bon ça.
Attends,
merci,
t'as dit quoi
Guillaume.
C'est parce que c'est quoi
Elle sait pas ce que c'est une défaite du Paris Saint-Germain.
Ah, parce que Paris Saint-Germain a pas perdu contre Marseille en Coupe de France.
Ouh, c'était en 2023, effectivement, la dernière victoire des Marseillais.
2011,
en Coupe de France. Non, en 2023 en Coupe de France.
En fait, c'est bien parce que Marion, elle commence à se chauffer, tu sais, elle a dit, ils sont pas dans l'obligation de faire un
résultat, mais
en tant que Parisien, ça commence à la faire monter
Ce qui semble nous déstabiliser, c'est une forme d'humilité de Marseille, en fait. De se dire
c'est
que.
Pas parisienne pour le coup, hein. Du côté de Guillaume, l'humilité, on a oublié.
Oui, non, mais, on dit 2-1, en fait, les Marseillais se sont contentés d'un 2-1. Là, on dit, par rapport à Rouli qu'on a entendu, qu'il y a une forme d'humilité. Mais l'humilité n'enlève pas une motivation. Et je te rejoins, Fred.
Ça
n'a pas de rapport.
Je trouve que c'est plutôt une forme d'intelligence.
C'est d'avancer masqué. C'est éventuellement d'avancer masqué.
Et quand est-ce que tu as plus de chances de gagner quand tu avances masqué? Parce que justement, tu caches un peu des choses. Admettons qu'il se passe très mal. Tu l'auras annoncé depuis le début.
Oui, non, mais c'est bien.
Donc tu n'as rien à perdre, t'as
sorti les boucliers.
T'as sorti les boucliers.
Jean-Louis, tiens, il y a une information qui est quand même intéressante, c'est qu'au lendemain de ce classique OM Paris Saint-Germain, les Marseillais vont repartir à Rome, c'est ça? Encore ?
C'est le retour du Retiro.
Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Bah oui, écoute, puisqu'il n'y a pas de match cette semaine pour les Marseillais, ils vont pouvoir faire cette mise au vert dont on a parlé l'année dernière. Alors l'année dernière, c'était un peu plus en période de crise, hein, quand c'était compliqué.
C'est vrai.
En fin de saison.
C'est pas toujours la crise à Marseille ?
Là, ça va à peu près.
Pour l'instant, ça va à peu près.
Mais t'as raison. La crise, c'était avec Rabiot. Donc oui, après les deux grosses périodes compliquées l'année dernière, ils sont partis en mise au vert comme ça, loin de Marseille. Celle-là, on l'avait pas vu venir du tout.
Bah oui.
Mais ils veulent en profiter. Histoire aussi, je pense, d'envoyer le message, c'est pas des mises au vert de crise. On peut aussi le faire quand ça va à peu près, parce qu'on a des trucs à travailler. Voilà. Ça avait plutôt porté ses fruits l'année dernière.
C'est ça la justification aussi, Jean-Louis. Ça peut être, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés en clôture de mercato. Finalement, ils ont fait peu de préparation ensemble. C'est Marseillais là.
C'est pour se ressouder, ouais. J'imagine. C'est pour créer vraiment cette osmose. Effectivement, ils sont arrivés un petit peu tard.
Ça a fonctionné la dernière fois, même si on s'était tous élevés contre ça. J'ai une question.
Si tu perds, en fait, tu ne resteras pas dans l'environnement marseillais.
Dans la marmite. Ça me fait rigoler parce qu'en fait, c'est dans tout. Moi, dans mon sport, c'est somme toute logique que lorsque tu fais 14, 20, 30 recrutements.
T'essaies de créer du lien entre les liens.
C'est
cohésion.
À peu près logique quand même. Enfin, moi, ce que fait l'OM à partir de lundi, ça me semble complètement dans l'air du temps et très logique par rapport à un effectif qui a été largement renouvelé sur une semaine où t'as pas besoin d'être à domicile parce que t'as des matchs.
Ça crée une complicité, ça accélère la connaissance.
Tu gagnes, imaginons tu bats le PSG pour la première fois depuis 2011.
Mais c'est pas une punition.
C'est-à-dire que le lendemain, tu n'es pas dans l'euphorie.
Mais c'est pas plus mal.
Tu perds aussi. Non, mais c'est quoi? C'est parce qu'on se protéger aussi.
J'ai une question pour Jean-Louis. On sait que les intempéries menacent. Si le match commence et qu'il doit être arrêté parce que l'orage éclate et que ça devient trop dangereux. Le match est reporté, on le reprend là où on l'a arrêté, admettons que la deuxième mi-temps puisse pas se jouer, ou est-ce qu'on recommence depuis le début?
Elle est déjà dans le futur, ça.
Il est 9h40 et tu viens de mettre Jean-Louis dans le merdin.
S'il pleut,
non, mais parce que si le match est découpé en deux, ça donne peut-être plus de chance au final à Marseille de battre le PSG, tu vois.
Non, mais écoute, j'ai les règlements de la Ligue imprimés à côté de moi, là.
Oui, évidemment.
Ah bah, c'est bien. Non.
Évidemment, j'en sais rien. On verra ce soir. Donc, je vais pas dire de bêtises. Non, il me semble quand même qu'on attend un laps de temps pour voir si les orages s'arrêtent, genre trois quarts d'heure, et si le match peut reprendre. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je vais pas dire de bêtises.
Là, t'es dans l'orage.
Eh ben, Sarah, merci beaucoup.
Je t'enverrai un message dans la journée dès que j'ai l'info. T'inquiète pas, Sarah.
Ouais, on va faire ça.
T'as prévu quelque chose, en tout cas, Jean-Louis? T'as les bottes? T'as un parapluie?
Non, rien du tout, bien sûr. Mais bon, je prends un parapluie, ça ira
bien. A priori, c'est couvert quand même là-haut. Bon, on a eu tout à l'heure Jérôme Cazadieu, le patron de Ligue 1 Plus, hein, qui disait qu'a priori, ça devrait tenir sur la première période.
Non, il disait
sur la deuxième.
Il avait un doute. C'est pour ça que je posais la question.
C'est pour ça que t'étais sûr.
Tu vois, c'est parce que j'ai écouté avant Anaïs matin et je me suis dit et si le match ne se finit pas.
C'est une très bonne question. Jean-Louis n'a pas d'arrêt.
Et on a noté que Jean-Louis Tour ne connaît donc pas
les règlements par cœur.
Pardon, Jean-Louis.
Il va falloir s'y mettre peut-être.
Ouais. La voix du foot.
Non, mais après j'aurais pu raconter n'importe quoi avec plein d'aplomb, ça aurait pu passer. Hein,
comment tu l'aurais dit par
exemple? Toujours aujourd'hui, c'est exactement.
C'est notre métier dans une grande gueule. Hein.
Allez, amis. Marseille, Paris Saint-Germain, l'honnêteté sera ce soir au commentaire. Jean-Louis Tour avec Florent Germain et on en parlera évidemment aussi avec Marion dans Bartoli Time tout à l'heure, un gros avant-match entre 19h30 et 20h30. Dans quelques instants, les amis. Le zapping, il y a beaucoup de choses hein, aujourd'hui. Il y a du foot, il y a du vélo. On va en parler. Vous allez me dire si on s'en fout, on s'en fout pas. Tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Les grandes gueules du sport en forme ce matin, et vous aussi d'ailleurs, hein, sur le WhatsApp RMC, je vous rappelle 06 12 424 424, vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages. Tiens, David qui nous dit OMPG, le choc, arrêtez, c'est juste un match de Ligue 1, pas besoin de sortir les violons. Salut les GG, nous dit Johan qui nous donne carrément le règlement pour le match interrompu. Ils sont là, hein. Ah, Johan est arbitre, c'est pour ça.
Mais je l'ai le règlement.
Tu l'as le règlement? Oh là, mais
l'arbitre aussi, Marion.
T'es arbitre, hein, Marion?
Non, mais j'ai ChatGPT.
Ah ouais. Alors ça, c'est la transparence et l'honnêteté. Il faut le mettre en valeur. Et avec Jean-Louis Tour tout à l'heure aussi, voilà. On ne vous ment pas sur la RMC. Quand on n'a pas l'info, on vous le dit. Quand on l'a.
Et quand on triche, on vous le dit aussi,
apparemment. Bah non, on se renseigne, c'est pas triché.
Dans un instant, sur le ring des GG, on va parler d'athlétisme. Les mondiaux de l'équipe de France ont-ils réussi à Tokyo? Je vous rappelle que ça s'arrête ce dimanche. En fin d'émission, venez jouer avec vos GG dans les jeux du sport ce week-end. Participez et remportez votre Ghetto Blaster de la marque Muse pour écouter de la musique, des cassettes, des CD, la radio. Appelez le 3216, touche 4 ou envoyez sport au 732-16, sport au 732-16. Tout de suite, les GG, vous me dites, on s'en fout ou on s'en fout pas?
Le zapping des grandes gueules du sport.
Je m'en fous pas. Lens a écrasé le derby du Nord hier soir 3-0 contre Lille. Sarah.
Bah, je sais pas si je m'en fous. Je vous avais dit qu'il fallait absolument pas rater.
Pas. Tu nous en parlais.
Bah, il fallait surtout pas rater ce match. Bah, en l'occurrence,
Lille
l'a raté. Non, je m'en fous pas, mais Marion, j'ai pas grand chose à vous dire.
Marion.
Non, non, je m'en fous pas.
Fred.
Je m'en foutais hier, je m'en fous toujours aujourd'hui.
Ah, mais oh, voilà. On est sur une ligne directrice qui ne change pas. Jérôme.
Je m'en fous pas.
Les champions du monde 2018, Olivier Giroud et Florian Thauvin étaient titulaires, mais c'est bien Thauvin qui s'est mis en évidence en marquant le deuxième but lensois, son deuxième but avec les Sorioles. Valentin Germain l'a rencontré après le match. Son travail depuis son retour en Ligue 1, on l'écoute.
J'ai jamais peur parce que je travaille toute la semaine de façon très dure. Je fais en sorte de faire des choses que les autres joueurs, je ne pense, ne font pas au quotidien. C'est ce qui me permet d'avoir confiance en moi et d'aller de l'avant et de ne pas douter.
Il ne doute pas, Florian Thauvin. Ça te fait réagir, Marion, ancien joueur de Marseille. On le voit performant depuis le début de la saison.
Oui, bien sûr. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans les statistiques du match, c'est que finalement, Lille a eu beaucoup plus de possession parce qu'ils étaient à 62-38. Ils ont fait tourner le ballon avec énormément de passes, mais finalement, c'était un jeu complètement stérile. Et Lens a été beaucoup plus actif dans sa prise de balle, a eu finalement des tirs cadrés qui étaient à peu près équivalents par rapport au LOSC, parce que LOSC en a eu 17 pour 15 pour Lens. Ils ont été nettement plus efficaces. Alors, Flo Thauvin a marqué le deuxième but à la 43e. C'était Saïd qui avait ouvert le score à la 28e. Mais au final, ils ont effectivement été beaucoup plus réalistes.
Il est là, Florent. Il va falloir compter sur Florent Thauvin cette saison, Jérôme, tu penses?
Il va falloir compter sur tout le monde. Je m'en fous pas parce que j'ai l'impression que ce championnat est illisible, en fait. Il y a Paris, pour le moment, et derrière, il n'y a pas de hiérarchie vraiment instaurée. Et que Flo Thauvin arrive à venir être un peu une vedette de notre championnat après sa longue carrière. Et on peut quand même le dire, il est quand même plutôt sur la fin qu'au début. Ça te donne un peu une espèce de sentiment, avec le retour d'Olivier Giroud aussi, que finalement la Ligue 1 est un championnat où les on vient terminer sympathiquement, et quand on a un peu de ballon, on est au-dessus. Et
il y a 32 ans.
Ouais, mais oui, mais la carrière qu'il a derrière. Et tu te dis, ben, avec un peu de talent, tu peux marcher sur n'importe quelle équipe du championnat. Je sais pas si c'est très rassurant finalement.
Allez, on zappe. Je m'en fous pas. Tadej Pogacar débute aujourd'hui son rêve fou d'être deux fois champion du monde en une semaine. Fred Weiss.
Je m'en fous.
Ah, on est sur un beau air zapping pour l'instant. Mario Bartoli.
Ah non, je m'en fous pas. On l'a eu, Pogacar, en plus, en interview.
Les gens qui me parlent, je m'en fous pas. Ça implique
ce qu'ils je m'en fous pas, mais je veux écouter Jérôme. Je voudrais voir si c'est réalisable. Bah, imagine... Si Remco, qui est donc tenant du titre.
Bon, Jérôme.
Je t'en piquine à te poser des questions, monsieur Pinot.
Faudrait pas que tu nous dises que
tu t'en fous, du coup.
Non, mais je croyais qu'elle allait me dire s'il y a l'orage au milieu du chrono, comment on fait, les
temps. Mais ouais, absolument.
Je rappelle que c'est le début des mondiaux de Kigali au Rwanda. Kigali,
au Rwanda.
Aujourd'hui. Et pas à Kinshasa.
Au programme, les contre-la-montre individuels.
Ça commence par les mêmes consonnes.
Et femmes, c'est à suivre sur RMC avec Léna Marjac. Départ pour les garçons à 13h45, arrivé aux alentours de 16h50. Alors oui, le Slovène veut détrôner aujourd'hui le roi de la discipline, Remco Evenepoel. Tu as dit Sarah, double tenant du titre, avant d'essayer de garder son maillot arc-en-ciel sur la course en ligne la semaine prochaine. Jérôme.
Alors,
Pogacar,
il va se passer quoi,
le Jérôme. Rêve de deux arc-en-ciel dans la même semaine. C'est rare.
Hein. C'est rare, mais c'est un phénomène extraordinaire, hein, ce Tadej Pogacar. Et je pense qu'il est...
capable.
C'est même pas un rêve pour lui. C'est son job et je pense qu'il va le réaliser. Evenepoel n'a pas eu la préparation la plus idéale. Il a été très, très affecté par son abandon sur le Tour. Je l'ai vu sur les premières images arriver à Kigali. Alors certes, il y avait l'avion, ça fait un peu gonfler la patte, mais je pense qu'il n'est pas du tout dans le même état de forme et de préparation à Yali qu'il l'était au départ du tour. Et quand on voit ce que ça a donné au Tour de France, alors il a cette marge en contre-la-montre, mais le contre-la-montre de Kigali est un contre-la-montre très particulier, autour de 1200-1300 mètres d'altitude, avec un parcours très très vallonné. Et je pense que Tadej Pogacar sera champion du monde du contre-la-montre.
D'accord.
Ah ouais, tu l'as
Mettre quelques espoirs.
Alors ne nous emballons pas, je pense que Paul Sexas sera sur le podium et peut-être même à la deuxième place. C'est pas parce que Paul fait deux qu'il sera le nouveau futur champion Eddy Merckx. Mais
On t'a pas posé la question.
On veut juste savoir s'il peut aller prendre une petite médaille.
Je serais déçu qu'il soit pas troisième.
C'est vrai. Ah oui.
Je rappelle qu'il a 19 ans, Paul Sexas, hein, si vous êtes passé à côté.
Et Bruno Armirail, tu le vois où?
Dans les choux.
Ah oui, d'accord.
Non, mais la vraie chance de médaille pour Paul Sexas, c'est Paul.
Vainqueur du Tour de l'Avenir, on rappelle le grand espoir
et
de demain.
Et championnat du monde de contre-la-montre en piste chez les juniors.
Alors, on vivra évidemment le contre-la-montre féminin en quelques instants avec Léna Marjac qui va nous faire suivre cette course. Hein. Je rappelle que Pauline Ferrand-Prévot n'est pas engagée sur le contre-la-montre, elle sera là sur la course en ligne samedi prochain. Et puis, on sera sur place évidemment le week-end prochain avec Jérôme Coppel et Maria Azé. Et on en parlera dans Grand Plateau, votre podcast vélo, à partir de demain. Abonnez-vous sur les différentes plateformes. On zappe, je m'en fous pas. Björn Borg, la légende Björn Borg, révèle son addiction passée à la cocaïne. Marion.
Non, je m'en fous pas.
Sarah.
Je m'en fous pas, mais je tombe pas de ma chaise non plus.
Ah. Voilà. Jérôme.
Je m'en fous.
Fred.
Je m'en fous pas.
Dans une autobiographie parue jeudi en Suède, la légende du tennis, sextuple vainqueur de Roland-Garros, je vous rappelle, il est aujourd'hui âgé de 69 ans, il est atteint d'un cancer de la prostate depuis 2 ans, et puis il révèle être tombé dans la drogue dans les années 80. Voilà ce qu'il dit. J'ai ressenti un coup de fouet aussi fort que ce que le tennis m'avait donné autrefois. J'étais ensuite plongé dans les ténèbres, les plus profondes, au point de s'être effondré un jour sur un pont aux Pays-Bas, juste avant une rencontre avec un vétéran en 96. Donc, il nous parle de moments sombres, Björn Borg. Sarah, pourquoi tu dis...
Parce que ce que les grands champions révèlent, c'est que la face cachée, elle est souvent sombre, que l'après-carrière est loin d'être évident, même pour ceux qui ont excellé, et que des sportifs qui sont tombés dans la drogue, j'ai envie de dire, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Pantani y a laissé sa vie, Maradona en est un exemple. C'est comment survivre en fait, comment vivre et comment survivre au fait d'avoir été le meilleur dans ta discipline et trouver encore un intérêt à te lever le matin.
On appelle la petite mort, hein. Et c'est pour ça qu'on.
Ouais, elle peut être.
Certains essaient de trouver des palliatifs.
Et elle peut être très longue. Elle peut être très longue. Donc, c'est des addictions qui sont pas, que tu entends et que tu lis de plus en plus souvent dans des biographies ou des révélations de monstres du sport.
Marion Björn Borg, c'est important quand même qu'il raconte un peu les.
Si ça lui fait du bien.
L'ombre.
Oui, mais bon, comme le dit Sarah, effectivement, dans le milieu du tennis, on tombe pas de notre chaise, qu'on n'est pas en train de se dire, oh là là, mais je l'avais vraiment pas vu venir. Après, moi, ce qui m'affecte particulièrement aussi, c'est qu'il révèle son cancer de la prostate, qui est quand même extrêmement agressif, où il dit qu'il vit au jour le jour et qu'il est, que les médecins lui ont indiqué que c'était dans des conditions qui étaient quand même assez difficiles pour lui, qu'il va devoir, se battre énormément pour essayer d'arriver à vaincre ce cancer. Donc on voit aussi toutes les difficultés que ces grands sportifs peuvent avoir après carrière et que malheureusement, même si on a aussi du grand chelem et qu'on a été numéro un mondial, les difficultés et les problèmes psychologiques, ils sont là et présents pour tout le monde et que la célébrité et l'argent n'ont rien à voir par rapport au bonheur qu'on peut ressentir au quotidien pour l'avoir croisé régulièrement.
L'argent, on en a beaucoup perdu en plus.
Exact. Oui, mais un petit peu comme Boris Becker, même si les addictions sont différentes, ça me rappelle quand même des parcours qui sont assez similaires et équivalents. Après, pour le croiser assez régulièrement chaque année à Wimbledon, j'avais l'impression qu'il allait de mieux en mieux, au contraire, et que justement, il arrivait avec son épouse à retrouver du bonheur, son fils qui joue au tennis, Léo Borg également. Donc ça m'attriste particulièrement d'apprendre cette nouvelle, en particulier au niveau de son cancer.
On en parlera un jour dans le vestiaire, hein, de l'après-carrière, des excès qu'il peut y avoir aussi. C'est évidemment intéressant sur comment gérer tout ça. Dans quelques instants, les GG sur le ring, direction Tokyo. Les mondiaux des Bleus en athlétisme sont-ils réussis? La Jidoukouré va nous rejoindre. À tout de suite sur RMC au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.